sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre s'est déroulé le Salon international des métiers d'art à Lens, l'occasion de découvrir les métiers de la céramique, des bijoux, du graphisme, du verre ou encore du textile. Plusieurs stands nous ont fait de l'œil, mais notre choix s'est porté sur Aglaé Plate, costumière.
Ce que j'appelle costume, ce sont des vêtements et des accessoires à destination du spectacle vivant et de l'histoire vivante. Quand je dis histoire vivante, ça va être les reconstitutions historiques, les bals costumés, en fait tout événement qui parle de l'histoire en général.
Est-ce que tu as fait des études pour ça, des stages? Est-ce que tu as tout appris en autodidacte?
Alors, je suis diplômée d'un diplôme des métiers d'art option costumier réalisateur qui maintenant est devenu un DNMAD, voilà, une licence. Et c'est grâce à justement ce diplôme que j'ai pu obtenir le sigle artisan d'art.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à en vivre?
Pas en ce moment, tout simplement parce qu'en fait, je me suis installée en avril 2022, car c'est très très récent. Donc en fait, tout simplement, justement, je suis dans ce salon pour promouvoir mon métier. Le costumier fonctionne beaucoup par réseau et par exposition, car vraiment, étant des pièces qui ne sont pas forcément très abordables, il faut vraiment que la personne ait confiance en nous et connaisse la fiabilité de notre travail pour commander. Voilà, donc rien ne vaut les salons pour montrer notre création.
Donc tu peux travailler avec des particuliers, tu travailles aussi avec des structures publiques, culturelles, comme quoi par exemple?
J'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec des structures publiques, par contre je travaille avec des petites compagnies de théâtre, des compagnies aussi un peu plus grosses qui n'ont pas forcément de costumier permanent et qui ont besoin d'un concepteur ou d'une réalisation.
Quelles sont tes inspirations? Quel est ton petit processus de création?
J'aime particulièrement l'histoire, voilà, je suis passionnée de ça au départ. Donc quand je réalise des costumes, il n'est pas surprenant de voir toujours une petite référence à l'histoire de l'art ou à l'histoire de la mode. Après, quand je réalise un costume, ça dépend si celui-ci, on me donne totalement carte blanche, donc là je vais vraiment créer de A à Z exactement comme je le souhaite, ou si c'est quelqu'un qui va me faire une commande avec un cahier des charges. Dans ce cas-là, donc ça peut être un metteur en scène, je vais respecter ce cahier des charges et je vais lui proposer des maquettes. Donc des croquis qui correspondent à sa demande, donc par rapport à un personnage, par rapport au texte, par rapport à l'ambiance qu'il souhaite. Une fois qu'il va valider ce croquis, je vais le réaliser avec différents essayages jusqu'à un essai sur scène avec la lumière pour voir si ça lui correspond toujours.
Tu parles un petit peu de reconstitution d'histoire. Comment tu fais? Quelles seraient tes astuces à nous donner pour être au plus proche de l'histoire?
Il faut penser un peu à l'envers de maintenant. Il faut vraiment penser que les personnes avaient des vêtements durables grâce en fait aussi à leur façon de fabriquer leurs vêtements. Donc on ne le doit pas forcément à l'esthétisme en fait. Aussi dire « Ah, il faut que ce soit un vêtement beau ». Non, il faut que ce soit un vêtement qui soit pratique. Donc on va utiliser des points beaucoup plus solides qui soient apparents. Voilà ce qu'on ne fait vraiment plus maintenant. Nous, on adore les coutures invisibles. Donc il faut vraiment en fait un peu modifier son cerveau par rapport à ça. Et comment je me base sur... je prends beaucoup de sources historiques, donc sur les thèses, sur les mémoires des historiens ou des conservateurs. Il y a beaucoup de livres, merci aux personnes qui les ont écrites, avec des patrons et des photos des costumes qui sont dans les musées, qui nous permet en fait de pouvoir récupérer les photos et comprendre l'intérieur des costumes. Et après les musées directement qui parfois donnent accès à leurs collections pour qu'on puisse les manipuler ou au moins les prendre en photo.
Comment tu arrives à faire passer des émotions à travers les costumes ?
Si c'est un costume qui est par exemple sur scène, le costume ne va fonctionner avec tous les autres éléments qui sont sur scène. Ça, il va transmettre une émotion grâce au décor, à la lumière, au jeu d'acteur. Et en fait, on va essayer de faire passer un message. Par exemple, si la personne, on doit montrer que celle-ci est très malheureuse et ne prend pas soin d'elle, on va peut-être faire un costume volontairement un tout petit peu trop petit pour elle pour montrer en fait que l'acteur ne se sent pas bien dans le costume. Quand c'est un costume plus pour de l'exposition, le but là va plus être de faire rêver les gens. Et donc là, en fait, on va faire des costumes qui sortent totalement de leur imaginaire. Donc en fait, ça va peut-être être des costumes en lien avec de la pop culture ou des univers que l'on voit pas habituellement. Donc par exemple, la piraterie ou encore l'espace ou encore la féerie. Vraiment des choses qui leur permettent de faire sortir les personnes de leur bulle.
Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité?
Déjà, j'adore faire des recherches, vraiment passer des heures dans les livres, dans les musées, sur internet pour pouvoir trouver la source qu'il me faut. C'est pas forcément sur la couture en général, ça peut être sur le mode de vie d'une certaine époque, parce que c'est bien de savoir pourquoi on portait ça, pas juste comment le réaliser. Et la deuxième chose, c'est de voir les yeux des gens ou le fait qu'ils soient ébahis en fait en voyant le résultat final alors qu'ils avaient vu la maquette au départ. Voilà.
Et il y a une grosse dimension écologique dans le monde de la culture en ce moment. Est-ce que c'est important pour toi? Comment tu transparais ça?
C'est très important pour moi, ça fait d'ailleurs partie de mes notes d'intention dans mon entreprise. Je travaille beaucoup les matériaux de seconde main. Déjà parce qu'en fait, on dirait pas, mais ils sont beaucoup plus solides que certains textiles qu'on peut acheter maintenant. Donc je me fournis beaucoup auprès des friperies, des personnes qui font des dons, des grands-parents, des anciennes générations, les Emmaüs qui ont par exemple des anciens draps, des anciens vêtements que je peux modifier, récupérer, transformer pour les mettre en costume. Si je ne peux pas trouver en seconde main, je vais beaucoup acheter des textiles, je suis bien obligée, mais en local. Donc concernant les tissus, je me fournis beaucoup dans les Flandres, par exemple le lin, je vais voir pour un partenariat à Aluin. Après, je vais j'élargis un tout petit peu plus. Si je ne trouve pas dans la région, je vais essayer de chercher en France, donc par exemple les soieries à Lyon, les lainages, etc. Et après, si je ne trouve encore pas, je vais dans l'Europe. Mais j'essaye vraiment au départ de faire le plus petit impact écologique avant d'acheter des choses.
Une dernière question, aujourd'hui, à l'occasion du salon, tu croises beaucoup de monde. Sur quoi les gens sont le plus curieux généralement ?
Sur l'intérieur des costumes. Parce que en fait, on en voit très rarement. Et moi, ce que j'adore sur les salons, c'est justement ne pas qu'exposer, mais aussi travailler en direct. Donc en fait, j'aime bien travailler sur des petites pièces, justement, donc, qui montrent aussi tout le petit travail de fourmi qu'il y a derrière. Donc par exemple, actuellement, je travaille sur un corps baleiné, donc c'est l'ancêtre d'un corset. Et je montre en fait qu'il y a énormément de points à l'intérieur, les baleines, etc. Et les gens sont fascinés par ça.
C'était Aglaé Plate, costumière. N'hésitez pas à la retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, Aglaé Plate, Plate. Incontestablement, la région des Hauts-de-France regorge de talents, des savoir-faire que l'on peut mettre en valeur dans les musées ou à travers les nouvelles technologies. On en parle avec Michel Taquins, délégué général de l'association Procitech.
C'est une association qui a pour mission de valoriser, de préserver le patrimoine industriel, le patrimoine des métiers. Donc on travaille sur la mémoire des métiers et notre corps de métier, c'est un réseau d'un peu plus de 120 musées techniques donc, autour des métiers, donc, que ce soit le musée portuaire de Dunkerque, le Ward pour la mine, les musées textiles comme l'écomusée de Fourmies, par exemple, dans le Nord, mais également les musées autour de l'agroalimentaire, du transport, de la santé ou des petites pépites comme par exemple le musée de la Nacre à Méru.
Humainement, qu'est-ce que le savoir-faire du Nord a à nous offrir ?
Une histoire déjà, parce que pourquoi Procitech est né dans le Nord, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a une histoire industrielle d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et donc Procitech refait vivre ses racines justement industrielles et des métiers pour mieux comprendre peut-être les métiers d'aujourd'hui et les filières d'aujourd'hui. Un exemple, aujourd'hui on parle de textile innovants, des textiles intelligents, des textiles qu'on va trouver dans le domaine de la santé. Pourquoi il y a autant de start-up et d'entreprises ici installées dans ce domaine-là dans le Nord ? Parce qu'il y a eu un passé industriel avec les grandes manufactures textiles qui ont toutes disparu à une certaine époque.
Du coup, en termes de ressources, on peut aussi penser localement ?
On peut, bien sûr, on peut penser localement. Justement, l'industrie, le métier d'art, le travail de la main, il a toujours été important sur la région, sur les différents territoires de la région. Et ce sont autant de savoir-faire, justement, qui peuvent susciter des nouvelles vocations vers les jeunes, avec une évolution, bien sûr, dans les métiers.
De quelle manière vous reprenez les symboles du passé et du territoire pour les valoriser à nouveau aujourd'hui ?
C'est les entreprises surtout, hein, les artisans qui font perdurer ces gestes et ces métiers. On essaye, nous, de faire comprendre justement la filiation entre une histoire d'hier et un savoir-faire d'aujourd'hui. Un exemple concret, dans le textile, je reprends l'idée du textile avec les textiles, par exemple, intelligents, montrer que entre les cartons jacquard imprimés qu'on trouve dans les anciens musées au 19e, et bien entre ces cartons jacquard et les logiciels d'inventaire que les start-up autour de la création textile aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence parce que c'est de la programmation déjà avec ces cartons imprimés. C'est simplement la technique qui a évolué, mais les savoir-faire finalement sont les mêmes.
Comment vous travaillez justement donc autour de la médiation de ces métiers qui sont peut-être peu connus pour les faire connaître ?
La mission générale de Procitech, c'est d'accompagner justement les 120 musées du réseau. Les accompagner, ça veut dire dans des actes de communication, de mutualisation de moyens, etc. Mais aussi leur faire comprendre qu'ils peuvent, sans aucun doute, montrer ou exposer autrement leur collection. C'est-à-dire qu'un objet peut-être être exposé, bien sûr, dans une vitrine avec un bel éclairage, mais il peut-être servir à un autre discours qui va intéresser davantage les jeunes. Exemple, je vais prendre un musée des télécommunications ici sur la région, montrer bien sûr des anciens téléphones, mais ça peut être que un prétexte aussi pour parler de la communication aujourd'hui. Parce que le jeune, même le moins jeune, va peut-être pas être intéressé à aller au musée pour aller voir un vieil objet, même s'il est très beau. Par contre, quand on va lui parler de communication, de fake news, de réseaux sociaux, on peut peut-être s'appuyer sur le patrimoine. C'est un peu ça aussi notre enseignement qu'on essaye de donner au musée et aux responsables des musées en disant montrez autrement ou utilisez autrement votre patrimoine pour être dans le coup, entre guillemets, dans la société, pour intéresser les jeunes.
Et derrière, ça peut potentiellement créer des vocations.
Et surtout, en effet, susciter des vocations, parce que pour un jeune, finalement, c'est en voyant faire, en discutant, qu'ils peuvent découvrir un métier, surtout dans les métiers d'art, hein, bien sûr. Et là encore, le musée peut être une bonne porte d'entrée. Mais encore faut-il que ces musées, justement, les montrent autrement. Et pas que enfermés dans des vitrines, donc un objet mort. Ils peuvent dire, voilà, ça aussi, c'est un savoir-faire que vous allez pouvoir retrouver dans un métier d'aujourd'hui et où il y a aussi des débouchés.
Merci.
C'était Michel Taquins pour l'association Procitech à l'occasion du Salon international des métiers d'art de Lens. Retrouvez toutes les informations de Procitech sur leur site internet procitech.asso.fr.